Ce sera encore moi. Oula, je suis navré pour vous. Vous avez l'autorisation de vous endormir pendant les prochaines minutes, il n'y a pas de problème. Si vous n'êtes pas mal bien élevé, vous restez éveillé. J'ai un but ce matin, et il s'agit d'une prière en fait, que nous tombions encore plus amoureux de Jésus-Christ. C'est ce que j'ai à cœur, c'est ma prière pour nous tous ce matin. Ça me convient. Donc il se peut qu'à la fin, il y ait encore un temps de prière avec les uns pour les autres, je ne sais pas encore. Mais c'est ça. On va tomber encore plus amoureux de Jésus. Et si on est amoureux de lui, ça change complètement la vie. Ce qu'on fait, ça change nos priorités, ça change tout. Si vous n'êtes pas encore chrétien, c'est la même prière. Je prie que vous soyez amoureux de Jésus-Christ. Ce matin, on a vu un peu tout. Des témoignages, de la louange, des annonces, des activités, tout. La Sainte Cène. Et au centre de tout ça se trouve une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Parce que sans lui, tout ça, c'est rien. Mais avec lui, nous avons une église. Avec Jésus-Christ au centre. C'est magnifique. Oui, je l'ai moi, on est à Lyon. 8 ans maintenant. Nos enfants, toujours en Angleterre, donc c'est pas évident tout le temps. Et le Seigneur est avec nous. On sait bien. Nous, on est impliqués aussi avec l'implantation des églises de Renaissance à Genève. On était là dimanche dernier. Et aussi, il y a une petite implantation, plutôt, je pense pour l'instant, projet d'implantation à Rouen. Ville entre nous et Clermont-Ferrand, là on a du contact régulier avec les gens là-bas. Vous connaissez peut-être pour Germain qui était là il y a 13 ans, je pense, 14 ans. Donc c'est un privilège d'être avec vous ce matin. C'est la première fois depuis avant la Covid. Je pense que c'était le moment où on a prié pour David, nomination d'ancien. C'était en 2019, je pense, peut-être 2018, ouais. Ok, c'est parti. Avez-vous déjà été cambriolé? C'est pas agréable. Je vous explique. En 1998, on était en Angleterre. Et en fait, on venait de déménager pour justement implanter une nouvelle église dans la ville de Coventry. Et nous avons acheté 2 appartements, l'un au-dessus de l'autre. C'est-à-dire une ancienne maison, en fait. Et notre projet était de rejoindre les 2 appartements pour avoir une maison de nouveau. Il y avait pas mal de travaux à faire. Et nous avons dû acheter une nouvelle cuisine. Un jour, en rentrant de quelque part, nous avons aperçu que la cuisine n'y était plus. Pas de cuisine. On lui est parti. Donc, il y a notre petit-fils, Joseph, qui est anglais. Dans cette ville de Coventry, on a également eu 12 vélos et une voiture volée en 10 ans. Ah, c'est la raison pour laquelle on a déménagé en France. C'était trop dur là-bas. Entre la date où nous avons décidé finalement de vendre notre maison pour justement venir en France, et la vente finale, l'année prochaine, la valeur de la maison a chuté énormément, 90 000 dollars, quelque chose comme ça. Ce n'est que de l'argent. Sur le coup, oula. une livre sterling valait 1,35 euros. Le lendemain, elle avait chuté 20%. Parce que pour nous, l'argent est... Non. C'est important. C'est ça qui est important. Lisons un passage dans Matthieu chapitre 6. C'est un passage très connu chez les chrétiens. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la ruine détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mythes et la ruine ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil et la langue du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera l'autre, ou il s'attachera au premier et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Je savais d'aller un peu plus loin. S'il y a quelqu'un ici qui a du mal derrière l'épaule, juste un peu plus haut, j'aimerais prier pour vous. Il y a quelqu'un? En plus. Il y a toi? Okay. Super, parce que ça veut dire que Dieu veut agir. Donc on va prier pour vous à la fin. Et si j'oublie, montrez-vous. D'accord? Merci. Nous, alors qu'on hésite à parler ouvertement de l'argent, même dans nos églises, ça ne pose pas de problème pour Jésus. Et on a tous parlé de même du paradis, même de l'enfer, de l'argent. Et il nous présente deux façons de vivre. Premièrement, en vue d'accumuler des biens précieux sur la terre. Deuxième façon, en vue d'accumuler des biens précieux dans les cieux. Et là, nous avons beaucoup de questions très importantes, énormes, en fait, devant nous. Dont la plus grande doit être où se trouve notre trésor. Est-ce que je suis vraiment amoureux de Jésus? Première question, de la sainte. Il s'agit de quoi servir un maître? Verset 24, dans ce passage-là, Matthieu 6, nul ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu. Et l'argent, littéralement, mammon, c'est un mot amaréen, aramaïen, si. Vous avez marre d'un accent anglais. Là, je suis désolé parce que c'est comme ça. Et parfois, je fais des fautes, pas trop en anglais, mais français, c'est difficile. Donc, l'argent ou Dieu. Et c'est bien clair. D'amasser des trésors dans les cieux et amasser des trésors sur la terre ne font pas bon. Tu ne peux pas dire, si on faisait les deux, pourquoi pas? Tu dois choisir finalement les deux. Et si tu es, c'est moi, je suis maîtrisé par le pouvoir de l'argent, Dieu ne sera pas le numéro un dans ma vie. Et si Jésus est, comme disait Farid tout à l'heure, sauveur et Seigneur, il ne peut pas être Seigneur. Si je suis maîtrisé par quelque chose, C'est un mec plein d'amour, plein de grâce, de promesses, fidèle. Et tu feras dans ce cas-là de l'argent un serviteur pour et de son royaume. Servir l'argent, c'est de soumettre ce que j'ai pour maximiser ce que l'argent peut me donner. Tout est pour ça. Et comme ça, l'argent peut exercer sur ma vie, sur votre vie, une telle influence que tu seras en quelque sorte son esclave. Je vous donne un exemple. Une conversation que j'ai eue avec un jeune avocat. Je donne des cours aux avocats. Okay. Il se plaignait pendant notre cours des longues heures de verre. Il devait faire travailler. Je lui ai dit, tu es esclave. Il était un peu choqué parce que ce n'était pas le sujet de l'anglais. Ce n'était pas partie de la grammaire anglaise et tout. Tu es esclave. Il m'a dit, bah, quoi? J'ai dit, si, c'est l'argent. Pourquoi travailles-tu comme ça? Il a répondu, parce que les clients exigent que je fasse. D'accord. Il exige une telle assiduité, une telle réactivité chez les avocats. Et si tu le refuses, je dis, pas ils iront ailleurs. Et je dis, et alors? Et je n'aurai plus le même chiffre. Si tu sers Dieu, servir Dieu signifie que le but de tout ce qu'on fait, c'est de maximiser la joie qu'on peut avoir avec lui. Il est le maître, le trésor. Mais attention, Jésus ne nous dit jamais que l'argent en soi est une chose mauvaise. Il faut le dire. Mais il nous pose la question. Où ou qui est ton maître? L'argent, mon Dieu! Où est ton présent? Deuxième question. Comment alors avoir un trésor dans le ciel? Parce que c'est ça que Jésus veut qu'on ait. Un trésor dans le ciel. Je vais lire deux, trois versets d'un passage en fait. Parallèle dans Luc chapitre 12, c'est Jésus qui parle et il dit, et papa, petit troupeau, que votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et faites don de l'argent. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable. Où le voleur n'approche pas et où la mythe ne détruit pas. Mais c'est là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc selon Jésus, avoir un trésor inépuisable au ciel, c'est tellement simple. Connaître Dieu comme Père, faire confiance à lui, et troisième chose, donner. Connaître le Père, faire confiance à lui et donner. Et là, selon Jésus, et d'ailleurs, fils de Dieu, tu auras raison. Lorsque tu donnes, lorsque je donne de manière à honorer Jésus, tu montres que tu es libéré du pouvoir de l'argent. Tu montres alors que l'argent n'est plus ton trésor. Quelqu'un d'autre a pris sa place. Tu montres que tu aimes Christ plus que de propre sécurité, ta sécurité, ton confort. tu lui fais confiance, Jésus, pour prendre soin de toi. Et tu sais que tu seras récompensé éternellement. Alléluia. Christ devient ta présence. Autrement dit, tu es un homme. Et comme ça, tu amasses ce trésor dans le ciel où il n'y aura. Troisième question. Mais que se passe-t-il si j'amasse ces trésors sur la terre? Évidemment, ce n'est pas ce que Jésus veut qu'on fasse. Au milieu de ce passage, en Matthieu 6, il y a deux versets qui, à mon avis, à première vue, apparaissent un peu étranges dans le contexte. Il dit, l'œil et la lampe du corps. Alors, il a commencé en parlant du trésor, le fait qu'on ne peut pas avoir les deux maîtres, et puis il se tombe vers l'œil. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si il est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Comment expliquer ça? L'œil est en quelque sorte la lampe du corps. Et si tu es aveugle, tu ne peux pas voir. Et c'est exactement la même chose spirituellement. Si on est aveugle, on ne peut pas voir. Pour la dire de Corinthiens 4, chapitre 4, que le Dieu de ce monde à aveugler l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne voient pas ressentir l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Mais Dieu, qui a ordonné que la lumière brille, il a brillé dans le cœur. Là, on dit que nous pouvons être aveuglés spirituel. Aveuglé à la vérité. Et la vérité, selon Jésus, c'est que nous serons, comme disait Farid, juste avant de prendre la Sainte Cène ce matin, nous serons tous jugés quand nous aurons mis notre confiance, ou peut-être pas, en Jésus durant la vie. On ne peut servir Dieu et l'argent. Satan veut nous aveugler à cette vérité. La vérité qu'on ne gagne rien en mettant mon espérance dans les richesses terrestres. Satan ne veut pas qu'on soit conscient de ça. Que nous mourrons tous un jour. Satan ne veut pas qu'on pense à la mort. Et qu'on n'emportera rien avec nous ce jour-là. Et que nous pouvons mériter jamais l'approbation de Dieu par nos œuvres. Je vous donne un exemple. Cette semaine, c'est bien d'entendre parler ici du parcours à faire. Nous en faisons un pour l'instant en ligne et nous avons quelques invités comme vous. Dans un couple lyonnais, avec Dieu et moi, on est allé les voir mercredi soir cette semaine pour justement faire le point. Mais vous êtes tous autour. Qu'est-ce que Dieu est en train de vous dire? Qu'est-ce que vous faites? Et après, ils sont français. Et du coup, on est arrivé à cette heure. Et puis, une heure et demie plus tard, toujours sur la terre. Et puis, franchement, je pensais que c'était la matinée, j'ai eu du travail. Mais c'était vers minuit, finalement. C'était une soirée excellente. La discussion se tournait, bien sûr, autour du sujet de Jésus par rapport à ça. Et après presque deux mois maintenant, en répondant à une question que j'ai posée, les deux ont répondu. Alors je pense, pour moi, ce sera le cas que j'aurai vécu une vie plus ou moins bien et du coup Dieu va m'accepter. Pour l'instant, alors, aveugle, ils n'ont pas encore vu que c'est par la grâce et seulement par la grâce que nous sommes sauvés. Nous prions pour eux, fond de l'épreuve, c'est clair, mais ils n'ont pas eu ce déclic pour voir la grâce de Dieu en Jésus-Christ et Jésus seul. Donc je leur ai dit, mais si on est, on peut être accepté par Dieu par nos œuvres, pourquoi Jésus est-il mort? Il aurait pu rester. Être riche envers Dieu signifie que tu comptes Dieu comme ta plus grande richesse, ton trésor, ta grande récompense. Alors, chaque matin, tu lèves et tu as une pensée. Le Père, le Saint-Esprit, tu es pour moi, il est mon trésor. Quatrième question, comment vaincre la peur? Je pense qu'on doit être honnête. Pour nous, pour beaucoup, peut-être tous, il y a parfois la crainte, la peur, quand il arrive au moment de penser, de donner. Nous aimerions, je pense, donner souvent plus, plus librement, plus généreusement que nous le faisons. Et pourquoi? Parce que, en fait, il y a chez nous la peur. Nous manquons un peu, je pense, de la foi. Je crains que si je donne tant, autant à l'église locale, à un projet, etc., je n'aurai peut-être pas assez pour mes propres besoins à la fin du mois. Mais Jésus nous encourage. Le passage parallèle que j'ai lu tout à l'heure commence avec « Ne crains point, petit troupeau, que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Quel beau verset pour nous, pour vaincre la peur, la demeurée. Il commence, ne craint pas, petit troupeau. Alors, si nous, on est le troupeau, ça veut dire que lui, il est le berger. Donc, il commence en se présentant, je suis votre berger. Et probablement, vous connaissez très bien le psaume 23 qui parle du parfait berger. Et s'il l'est, il me promet que je ne manquerai de rien. Rien. Que grâce à lui, je me reposerai dans les verts pâturages. Qu'il me conduira où? Au bord des eaux calmes. Alléluia. Il restaurera mon âme parce qu'il est mon berger. C'est magnifique. Il promet que si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il sera avec moi. Beaucoup de place. C'est le berger qui est Jésus-Christ. Il se tient à côté de toi dans n'importe quelle situation. Est-ce que tu aurais peur? Non. Pourquoi? Parce qu'il est là. Il est donc. Mais ce n'est pas tout. Notre petit verset. Ne crains point, petit troupeau, car votre berger, non, car votre Père. Alors, Jésus, il présente la Trinité, il présente Dieu, berger, et maintenant Père. Nous avons un berger et un Père, dont le nom est Saint. Un Père qui sait prendre soin de ses enfants. Alors, on est le troupeau maintenant, on est les enfants. Et si est enfant, selon Paul, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, que héritiers de Christ. Et si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, berger. Alors, tu as maintenant le berger à côté de toi, tu as maintenant le Père qui a créé l'univers à côté de toi. Tu as peur? Mais ce n'est pas encore tout. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc si il peut donner un royaume, ça fait de lui roi. Et maintenant, vous aurez berger, père, roi, tout. À qui appartient tout le pouvoir, toute l'autorité dans tout l'univers? Il peut faire tout ça. Tout ce qu'il veut. S'il est roi. Et il prend plaisir à donner le royaume. Le royaume, toutes les richesses du royaume, tout le pouvoir dans le royaume, il est le roi. Donc apprenons à connaître Dieu, berger, père et roi, notre trésor au-dessus de tous les trésors du monde. Et cette vérité, à mon avis, fait fondre la peur de donner et fait vibrer la joie d'amasser des trésors dans le ciel. N'ayons pas peur. Donnons fidèlement, librement, joyeusement, généreusement. Il est le berger, le Père et le roi. Et la dernière question. Personnel. Où? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, dit Jésus. Nous revenons alors à la grande question. Est-ce que mon trésor, au final, se trouve lié dans ma famille, dans mon compte bancaire, le travail, ma maison, mon intelligence, mon éducation, etc.? Est-ce que mon trésor se trouve en une personne, Jésus-Christ, que Dieu le Père a envoyé mourir sur la croix pour moi, pour me sauver de l'enfer, pour me donner la vie? Bon, je pense qu'il est digne de l'enfer. Un bien. Nous avons un peu parlé de notre trésor. Où se trouve notre trésor? C'est quoi notre trésor? Qui? Mais, en fait, vu le prix que lui a payé pour nous, peut-être la question aussi doit être: où se trouve le trésor de Dieu? Un bien vaut exactement ce que l'on paie pour. D'avoir. J'ai commencé en parlant de notre maison d'Angleterre, finalement vendue, alléluia, à un prix diminué, ok, mais elle valait ce que l'acheteur a payé. Le 8 juin 2021, à New York, à Sotheby's, une pièce d'or de monnaie américaine, c'est-à-dire un double aigle de 1933 d'une valeur nominale de $20 a été vendu aux enchères pour un montant record de 18,9 millions. ce que quelqu'un paye pour te racheter, n'est-ce pas? Dieu montre à nous notre valeur. Tu valais le prix le plus élevé qui soit, le sang infiniment précieux de son Fils Jésus, son Fils unique. Bien. Tu es son trésor. Tu dois. Oui, avec toute ma vie. Avec les géniaux, les moments imparfaits, tu es son trésor. Alors, où est ton trésor? Si tu commences à te rendre compte que Dieu a choisi de mettre son amour en toi, de t'aimer, alors il doit y avoir une réponse, n'est-ce pas, qui concerne mon trésor. Tu es déjà son trésor. Et alors, si ton trésor est en n'importe quelle autre chose ou personne que Jésus-Christ, une éternité de châtiment en enfer attendra. Mais si ton trésor est au Jésus-Christ, si lui il est bien ton maître, tu seras avec lui dans la gloire à jamais. Si tu sais, je m'adresse juste un instant, je vais terminer dans 10 minutes. Je m'adresse à ceux ou celles qui ne sont pas sûrs de leur foi. Si ton trésor est en quelque chose d'autre, il t'invite à voir les richesses insondables. Il t'invite à ouvrir ton cœur pour que lui puisse avoir une relation très intime et intime. Un dernier verset. Le royaume des cieux, selon Jésus, ressemble à un trésor caché dans un champ. Donc il a trouvé le cache. Et dans un genre, il va vendre tout ce qu'il possède. Jette ce champ. Est-ce que vous avez trouvé le cache? Et justement, Jésus-Christ. Si oui, réjouissez-vous. Rendez même plus de plus à nous. Des trésors. L'amour. Je vais prier une prière et puis je vais inviter. Je ne regarde pas l'horloge. Ça, c'est obligé. Je vais inviter les musiciens. J'aimerais qu'on chante un chant et puis qu'on prie. On va prier pour les deux, trois personnes qui sont mal juste là, bien sûr. Amour renouvelé pour Jésus-Christ. Donc c'est OK pour les musiciens? Merci. Jésus, le trésor des trésors.
sûr que c'est ça.